Radio Okapi.
Édition de nos informations dominicales vespérales, c'est avec Noëlla Luzitu Kabambi.
Une équipe de l'UNICEF composée des spécialistes en santé, nutrition, assainissement, protection de l'enfant et éducation a commencé à apporter une aide en réponse aux inondations écoulées de boues dévastatrices qui ont tué plus de 400 personnes à Calais au sud Kivu. L'UNICEF l'a fait savoir dans un communiqué publié hier samedi. Les réseaux de distribution d'eau ayant été totalement ou partiellement détruits, les communautés recueillent de l'eau non traitée du lac, ce qui accroît considérablement le risque de choléra déjà endémique dans la région. Accalmie relative dans la commune de Lubunga où les communautés Lingola et Mbole se sont affrontées récemment, faisant plusieurs dizaines de morts. Hier, le porte-parole du gouvernement provincial a affirmé que la situation est maîtrisée avec le déploiement massif des forces de sécurité. Étienne Kalimbiro Balura est l'invité de ce journal. Il est le superviseur terrain du projet de prévention et réponse à l'exploitation, les abus et les harcèlements sexuels. Ce projet qui sera mis en œuvre par l'organisation psychosociale transculturelle TPO dans 18 zones de santé du Sud Kivu et 2 zones de santé du Maniema. Bonsoir à tous. Drame de Calais au sud Kivu. Une équipe de l'UNICEF composée des spécialistes en santé, nutrition, assainissement, choléra, protection de l'enfant et éducation a commencé à apporter une aide vitale en réponse aux inondations écoulées de boue dévastatrices qui ont tué plus de 400 personnes selon les autorités sanitaires de la province. L'UNICEF l'a fait savoir dans un communiqué publié hier samedi. Des milliers de personnes sont toujours portées disparues. Le choléra étant endémique dans la région, l'une des priorités de l'UNICEF est d'améliorer les conditions de vie et d'assainissement afin de prévenir l'apparition de maladies diarrhéiques. Et les réseaux de distribution d'eau ayant été totalement ou partiellement détruits, les communautés recueillent de l'eau non traitée du lac, ce qui accroît considérablement le risque de maladies. Alain Irung.
L'UNICEF a distribué des kits d'eau d'assainissement et d'hygiène, ainsi que des kits de prévention et de contrôle des infections à utiliser dans les établissements de santé, 100 kg de chlore pour les installations sanitaires et 12 tonnes de matériel supplémentaire comprenant des seaux, des jerricanes, des savons pour l'installation de points de chloration afin de s'assurer que la population a accès à de l'eau potable et propre. L'UNICEF a également déployé 5 équipes de lutte contre le choléra afin de renforcer la surveillance de la maladie, de répondre à tous les cas suspects de choléra et d'intensifier les activités de promotion d'une bonne hygiène. L'UNICEF a fourni du matériel médical et des médicaments aux zones de santé touchées et s'efforce également d'identifier et de réunir les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille. En collaboration avec une ONG partenaire, l'UNICEF a immédiatement mis en place 14 espaces amis des enfants où ces derniers peuvent bénéficier d'un soutien en matière de santé mentale de la part des praticiens qualifiés. L'UNICEF et ses partenaires se préparent également à distribuer environ 4000 kits d'articles non alimentaires aux ménages touchés.
Restons à Calais où la situation demeure confuse et intenable. Les survivants hésitent à quitter les lieux sinistrés pour rejoindre le site désigné par les autorités. Les volontaires viennent en assistance, mais la distribution pose problème. Un bateau chargé de 8 tonnes de vivres et non-vivres a quitté Bukavu pour Calais ce matin dans le cadre de l'apostolat du groupe Yakesho Yajua Mungu. Jean Kassami nous en dit plus.
Ces bateaux chargés de vivres et non-vivres sont destinés à Nyamukubi où les bienfaiteurs ont procédé eux-mêmes à la distribution, un geste que les sinistrés de Nyamukubi ont apprécié car selon eux, les gros des aides sont tantôt focalisés à Bushushu, soit détournés par les comités. Le comité provincial de gestion de la catastrophe avoue son débordement. L'administrateur de Kalehe, Thomas Bakenga, fait partie du comité.
Nous, on avait dit au niveau de la coordination, nous avons demandé à un partenaire professionnel qui est Audvision, qui était décidé par Ruotia, et Audvision pouvait faire ça professionnellement. Mais on a constaté qu'il y a une pression, là, je ne sais pas de quelle structure de gens, qui voudraient à ce qu'on donne tout. Et maintenant, ça s'est fait d'une manière non ordonnée. Maintenant, là, les conséquences, si vous comprenez, sur le site, il y en a qui se querellent, qui se battent, de tout et tout.
Une autre difficulté dénoncée par les comités, c'est l'afflux des habitants des milieux non sinistrés sur les sites de distribution. Ainsi, l'administrateur réitère la demande aux sinistrés de se regrouper sur les nouveaux sites pour faciliter l'opération. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, accalmie relative dans la commune de Lubunga, où les communautés Lengola et Mbole se sont affrontées récemment, faisant plusieurs dizaines de morts. Le gouvernement provincial déclare avoir maîtrisé la situation en déployant massivement les forces de sécurité sur le terrain. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le porte-parole de cette institution hier à Kisangani au cours d'un point de presse. Georges Lomali Samonde explique les actions du gouvernement dans cette crise et comment ce dernier entend instaurer une paix durable dans les deux ethnies. Ces propos ont été recueillis par Jacques Moukonkole.
Sur le plan sécuritaire, la police et l'armée ont été déployées sur le terrain afin de sécuriser la population et rétablir l'ordre public, ce qui a permis d'appréhender quelques auteurs de barbarie qui aujourd'hui sont aux arrêts. Ils seront jugés publiquement et l'opinion saura les vraies causes de ces conflits ainsi que leurs commanditaires. Sur le plan humanitaire, un site a été créé par le gouvernement provincial dans la commune de Kisangani pour héberger les déplacés de Lubunga. Il a assuré la dotation de chaque ménage en tente, matelas, vivres, ainsi que la prise en charge des blessés et de quelques candidats à l'examen d'État en difficulté de paiement des frais de participation. Un dialogue intercommunautaire est envisagé dans un délai raisonnable en vue de désamorcer définitivement ces conflits et de promouvoir le vivre ensemble qui a toujours caractérisé ces deux communautés en particulier et toutes les communautés de la Tchopo en général. Il s'y est de signaler que son Excellence Madame la Gouverneure a déjà saisi notamment leurs Excellences, Messieurs les Premiers Ministres, chef du gouvernement et le Vice-Premier Ministre de l'Intérieur en vue des orientations et appui du gouvernement de la République.
Dans le territoire de Beni au nord Kivu, une nouvelle embuscade des ADF a fait un mort et des blessés ce dimanche matin à la hauteur de la localité Kalintumbu sur l'axe Kasindi-Beni. La société civile du secteur des Rwenzori qui condamne cette énième attaque des ADF au même lieu où a eu lieu une autre attaque hier samedi demande que les opérations militaires se poursuivent afin de nettoyer la zone où la présence des ADF est encore visible. Marc Marofimbo pour des précisions.
L'incident a eu lieu aux environs de 7 heures locales ce dimanche matin quand une camionnette marque Canter transporta des marchandises en provenance de Kasindi pour Beni est tombée dans une embuscade tendue par les ADF à Kalitumbu dans le village Kotongo, groupement Basongora. Les bilans, selon la société civile du secteur de Wanzuri, fait état d'un mort, les chauffeurs de la dite camionnette tués par balle et deux blessés ainsi que la camionnette incendiée. Alertés, les forces armées sont arrivées au lieu de l'incident alors que ces rebelles avaient déjà disparu dans la nature. Par ailleurs, la société civile du secteur de Wanzuri condamne la montée d'astrocité des ADF dans cette région où, en l'espace de 3 jours seulement, 3 incursions de rebelles ADF sont enregistrées dans la même zone. Les bilans de ces différentes incursions est de 4 civils tués, 5 autres blessés, 3 véhicules et 2 motos incendiées ainsi que plusieurs biens de la population pillés avec un déplacement de civils enregistrés. Meleki Mulala, coordonnateur de la nouvelle société civile secteur de Rwenzori, demande que les opérations militaires s'intensifient dans cette partie du territoire de Beni afin de nettoyer la dite zone où les rebelles ADF circulent encore et à la population de rester prudente. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Dans l'ouest du pays, dans la province de Kwango, la ville de Kenge, son chef-lieu et ses environs, sont à ce jour assiégés par des milliers de nouveaux déplacés. Ce sont des habitants des villages Bachongo, Mongata et autres qui ont fui les violences vendredi et samedi, violences créées par les miliciens du groupe armé Mobondo. Le cadre de concertation provinciale de la société civile du Kwango, qui alerte, indique que ces déplacés vivent dans des conditions inhumaines, surtout que parmi eux figurent ceux qui s'étaient réfugiés à Bachongo, déjà comme déplacés en province. Provenance du territoire de Kwamout au Maïndombe, fouillant toujours les attaques de ces mêmes assaillants. Symphonie Kwengo, premier vice-président de cette structure citoyenne, demande au gouvernement congolais de venir en aide à ces personnes en détresse. Il est joint ce dimanche par Irène Boma.
La situation est toujours tendue entre le pont Kwango et Mbankana. Tous ces rayons-là, vous prenez Mongata, Bachongo, ces rayons-là est pratiquement inhabité pour le moment. Il n'y a plus personne, c'est le désert. Les gens ont fui, les villages ont été abandonnés. Kenge, Mission Lonzo, pont Kwango, c'est plein de déplacés. Vous savez, Madame Irène, la plus grande difficulté que nous avons, Bachongo, c'était le lieu de refuge de tous les déplacés qui venaient de Mongata. Kongata qui scellait Fumunken. Maintenant, ces déplacés-là qui étaient là très nombreux deviennent encore pour la énième fois déplacés. Donc ils sont en fuite, en débandade, donc la situation humanitaire est très préoccupante. On a maintenant là un nombre important de déplacés qui requiert une intervention sur le plan humanitaire. Donc ça ne doit pas attendre. Et depuis que nous avions parlé de ces déplacés il y a presque 2 mois, ils n'ont bénéficié d'aucune assistance. Et maintenant qu'ils sont encore en brousse, je crois que c'est le moment que ces gens bénéficient d'une assistance humanitaire auprès du gouvernement et même des partenaires techniques et financiers.
Dans la province de la Tchopo, les inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique menacent de boycotter l'organisation des épreuves pratiques des finalistes de l'examen d'État à partir de demain lundi 15 mai. Ils qualifient leur prime de dérisoire, prime que leur proposerait l'inspecteur principal provincial de l'EPST Tchopo 1. Ils ont manifesté bruyamment à ce sujet ce dimanche dans la mi-journée pour faire entendre leur voix. Un reportage de Jacques Moukonkole.
Ces inspecteurs se sont rassemblés à l'Athénée primaire pour exprimer leur mécontentement. Selon leur porte-parole, l'IPP leur propose le même montant que celui qu'ils ont touché l'année dernière, alors que le nombre d'élèves finalistes et les frais de participation ont augmenté sensiblement cette année.
Que l'on puisse payer un chef de centre 2 500 000 francs congolais, un adjoint technique 2 300 000 francs congolais et un secrétaire 2 100 000 francs congolais. Si le comité provincial de l'EPST Tchopo 1 ne prend pas en considération cette déclaration, il n'y aura pas organisation des pratiques professionnelles.
Pour sa part, l'IPP déclare que les montants à payer avaient été fixés bien avant par le comité provincial de l'EPST. S'il y a des revendications à formuler, c'est à cette instance qu'il faudra les orienter, précise Grégoire Mukakalinga.
Si, lors de l'adoption du budget, le représentant avait émis le vœu de revenir sur le montant, le comité provincial aurait pu statuer à ce moment-là. Mais maintenant, le budget est en phase d'exécution. On ne peut plus faire marche arrière.
Alors que les inspecteurs tiennent mordicus à leur position, l'IPP les invite au respect de la procédure de revendication tout en travaillant pendant que celle-ci poursuit son cours. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province du Lualaba, ce sont les enseignants qui ont travaillé comme agents temporaires de la CENI lors de l'enrôlement des électeurs à Musumba, territoire de Kapanga, qui dénoncent la rétention d'au moins 25 dollars américains de leur salaire par le chef d'antenne local de la CENI. Cette situation était à la base de la manifestation de protestation hier samedi à Musumba. Tout en qualifiant d'anti-valeur cette rétention non justifiée d'une partie de leur argent par la CENI, ces enseignants demandent l'implication des autorités compétentes pour qu'ils rentrent dans leurs droits. L'un d'eux témoigne sous anonymat au téléphone de Grace Amzati.
J'ai été MCI dans un bureau d'enrôlement. Il y a le PCI, le chef du bureau d'enrôlement. Il y a les MCI. Maintenant, les PCI, on leur avait dit de donner 40 dollars. Et le reste des MCI, on va les retenir 25 dollars. Et c'est pourquoi nous avons revendiqué et même partir dans des rues et chanter, nous ne voulons pas ça. L'AT était là. Et même aujourd'hui, le CEA a passé encore à la radio. Il a dit que maintenant, ce n'est plus 25 dollars, c'est 100 dollars à un MCI. Et au PC, ce n'est plus 40 dollars, c'est 50 dollars. C'est pourquoi nous sommes allés plaider à M. Laté. C'est avec un cri d'alarme, nous lançons le message au gouvernement. D'abord, quand nous étions dans des enrôlements-là, nous avons peiné, on mangeait mal. L'argent qui nous a été payé premièrement là, nous avons dépensé au crédit, des mangeailles et autres. C'est qu'on donne d'abord ce pays. Que tout ce que l'État a proposé nous soit donné en entièreté et non encore nous retirer des miettes.
Tous nos efforts pour avoir la réaction de l'incriminé n'ont pas abouti. Dans le territoire de Béni, la marche pacifique organisée par les membres du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement ICD a été étouffée par les forces de l'ordre hier samedi dans la commune rurale de Oicha. Les manifestants réclamaient le retour de la paix dans la partie est de la RDC, mais aussi la stabilité du taux du dollar américain qui met à mal le panier de la ménagère en RDC. Pour le président fédéral et chargé des activités de ce parti politique, pour la ville et le territoire de Béni, l'unique moyen de faire taire la population, c'est de lui ramener la paix et la stabilité économique. Emery Katavali est au micro de Marco Marofimbo.
Nous sommes en train de réclamer trois choses. La première des choses, c'est la vie chère que traverse la population tout entière de la République démocratique du Congo, parce qu'avec les taux des dollars, la population ne sait plus sur quel sens s'avouer. Alors, nous sommes en train de réclamer que les taux soient rétablis, d'abord pour que la population se retrouve. Deuxième chose, nous sommes en train de décrier l'insécurité qui persiste à l'est de la République démocratique du Congo, malgré cet état spécial de l'état de siège. Et troisième chose, bon, vous savez, avec le processus électoral qui a déjà mal commencé, avec les productions de cartes qui ne garantissent pas si réellement nous allons arriver à date des élections avec ces mêmes cartes-là, parce qu'il y a des cartes qui s'effacent à 2 semaines et il y a d'autres qui n'ont pas renouvelé leurs cartes. Nous croyons que l'unique moyen de faire taire la population, c'est de nous ramener la paix. C'est ce que l'AT doit faire. Donc, on ne peut pas ramener la paix par des brutalités ou alors faire taire les gens avec des menaces ou des intimidations. Non, l'unique moyen de faire taire la population, c'est de nous ramener la paix.
Actualité internationale. Le cyclone dénommé Mocha s'est abattu ce dimanche sur le Bangladesh, épargnant néanmoins largement les vastes camps des réfugiés et l'ouest de la Birmanie où des rues étaient transformées en torrents, des toits arrachés et les communications quasi coupées. Accompagné de vents violents soufflant jusqu'à 195 km par heure, Mocha est classé en catégorie 5, la catégorie la plus élevée sur l'échelle de Saffir-Simpson. Ce dimanche soir, l'essentiel de la tempête était passé, selon des correspondants de l'Agence France Presse. Selon la météo nationale indienne, elle devrait s'affaiblir en arrivant sur les collines accidentées de l'intérieur de la Birmanie. Les cyclones, parfois appelés ouragans dans l'Atlantique et siphons dans le Pacifique, sont une menace régulière sur les côtes du nord de l'océan Indien, où vivent des dizaines de millions de personnes. En mai 2008, Nargis avait fait au moins 138 000 morts ou disparus en Birmanie, la pire catastrophe naturelle de l'histoire du pays. Les scientifiques ont prévenu que les cyclones devenaient plus puissants dans certaines régions du monde à cause du réchauffement climatique.
L'invité.
La province du Maniema vient de bénéficier du projet de prévention et réponse à l'exploitation, abus et harcèlement sexuel. Ce projet de près d'une année sera mis en œuvre par l'organisation psychosociale transculturelle TPO dans 18 zones de santé du Sud Kivu et dans 2 zones de santé du Maniema, dont Kunda et Kibombo. Pour en parler, le superviseur terrain de ce projet, Étienne Kalimbiro Baluira, s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Étienne Kalimbiro, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Dites-nous, vous représentez quelle organisation et vous êtes venu faire quoi ici chez nous au Maniema?
Je suis le superviseur terrain au sein de l'organisation TPO. TPO, ça veut dire Transcultural Psychosocial Organization. Et nous sommes au Maniema dans le cadre de la mise en œuvre du projet de prévention et réponse aux abus, exploitation sexuelle et harcèlement sexuel dans le cadre du projet financé par la Banque mondiale à travers 4 programmes, notamment PMNS, Programme multisectoriel de la santé nutrition, PDSS, Programme de développement de la santé et du système de santé en RDC et le programme COVID-19.
Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous êtes parti de quel constant pour venir exécuter ces projets ici? Qu'est-ce qui vous a plus attiré?
Le projet a été financé dans différents contextes, notamment le contexte de la guerre en RDC et aussi le contexte des différents programmes financés au niveau de la RDC et qui, au niveau de la mise en œuvre, il y a eu certains cas d'abus et exploitation sexuelle signalés au sein des différentes communautés de ces programmes. C'est ainsi que ce projet a été financé pour venir contribuer au renforcement du système holistique et intégrer les interventions multisectorielles de prévention et réponse pour les cas EAS.
Quelle sera la stratégie de mise en œuvre de ces projets?
Pour ces projets, on vise quand même à renforcer les connaissances des staffs du système de santé dans les zones d'intervention. Nous allons aussi mobiliser les communautés à travers les différentes actions de prévention et de changement de comportement. Nous allons aussi faire l'engagement du mécanisme de coordination des cas d'abus et exploitation sexuelle, ainsi que la protection et la santé au niveau de toutes les 2 provinces, notamment Sud Kivu et Maniema. Nous allons aussi faire des partenariats stratégiques avec les organisations à base communautaire qui sont présentes dans différentes zones de santé.
Et quels sont les résultats attendus du projet de prévention et réponse à l'exploitation, les abus sexuels et harcèlement sexuel?
Nous voulons que les données et les informations stratégiques de qualité sur les risques EAS et la cartographie des services de prise en charge soient disponibles au sein de la communauté. Nous voulons aussi que les communautés sanitaires concernés par les programmes multisectoriels de la santé nutrition, les programmes de développement du système de santé en RDC et COVID-19 soient informés sur les violences basées sur les genres, les exploitations et abus sexuels, harcèlement sexuel, y compris les services de prise en charge de ces cas cités ci-haut. Nous voulons que les capacités des organisations partenaires ainsi que toutes les parties prenantes, y compris les parties étatiques, soient impliquées dans la mise en œuvre du projet et nous voulons que les victimes d'EAS, abus et exploitation sexuelle, harcèlement sexuel, soient identifiés et bénéficient d'une prise en charge holistique et la réintégration socio-économique, ainsi que développer les mécanismes de gestion des plaintes au niveau de chaque communauté ou au niveau de toutes les zones d'intervention que le projet va être implémenté.
Et que peut être votre recommandation à la population et aux parties prenantes à ces projets?
Alors, l'appel à ces différentes parties prenantes, c'est de les demander d'accompagner le projet, d'appuyer le projet et qu'on se rassure que les survivants des cas EAS et des violences basées sur le genre accèdent aux services sanitaires et que la communauté aussi puisse s'approprier les mécanismes de gestion des plaintes visant à signaler les cas d'abus et exploitation sexuelle au niveau des communautés. Nous les invitons à la tolérance zéro et nous y arriverons c'est quand les cas d'abus et exploitation sexuelle sont signalés et que les enquêtes soient faites pour que les auteurs soient punis conformément à la loi sur les violences sexuelles et abus exploitation sexuelle dans les pays en RDC.
Monsieur Étienne Kalimbiro, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste.